Chapitre 19e. Appel à l'opinion du monde. Une des satisfactions les plus complètes de mon existence se rattache au petit ouvrage que j'écrivis pour mettre un frein à la campagne de calomnie qui, à propos d'une méthode militaire en Afrique, faisait rage contre nous par toute l'Europe et menaçait de nous entraîner dans une guerre. Le 7 janvier 1902, me rendant seul en voiture de Hindhead à Londres pour assister à un de ces charmants dîners de huitaine que donnait Sir Henry Thompson, je me mis à lire la correspondance étrangère du Times. Il y avait là les comptes rendus de nombreuses réunions organisées sur le continent, l'une, entre autres, en Rhénanie, par les membres du clergé, pour protester contre nos brutalités envers les bourgs. Pour qui connaît le bon naturel du soldat anglais et la correction de ses chefs, tout cela était inexprimablement absurde. Cependant, le journal déposé, je ne pus, à la réflexion, m'empêchait de me dire que ces gens du continent obéissaient à des modèles généreux, désintéressés, honorables. Comment auraient-ils pu ne pas croire les horreurs qu'on leur racontait, et comment, les croyants, ne se seraient-ils pas fait un devoir de les dénoncer par tous les moyens, dans des réunions, dans des articles de presse? À qui la faute si notre version de l'affaire sud-africaine n'était pas soumise au jugement du monde civilisé? Que pouvait-on savoir de notre cause? Où pouvait-on s'en instruire? Les livres bleus et les papiers d'État ne sont pas faits pour la multitude. Le livre de Fitzpatrick, de Transvaal vu du dedans, et celui de T. E. Cook, Raison et tort, étaient des volumes coûteux et difficiles à traduire. Pas un ouvrage où la question fût embrassée dans son ensemble et d'une manière simple. Pourquoi donc un Anglais ne l'écrirait-il pas? Pourquoi, et l'idée me traversa la tête comme une balle, pourquoi ne l'écrirais-je pas moi-même? Instantanément, je m'enflammais pour ce projet. Je n'ai pas eu souvent dans la vie le sentiment d'un appel si direct, si impérieux, et qui écarta de mon esprit toute autre pensée. J'étais déjà très documenté sur la guerre sud-africaine. J'en avais écrit entre-temps une histoire. J'en avais vu quelque chose, et mes plans s'élargissaient de minute en minute. J'ouvrirai une souscription publique. Avec ce qu'elle donnerait, joint ce que produirait la vente du livre en Angleterre, je m'occuperai d'avoir, dans toutes les langues, des traductions que l'on distribuerait en masse. Chaque professeur, chaque membre du clergé, chaque journaliste, chaque homme politique recevrait la sienne dans sa langue propre. Ainsi, à l'avenir, on n'aurait plus le droit de plaider l'ignorance et de prétendre ne connaître qu'un aspect de la question. Je n'étais pas arrivé à Londres que j'avais déjà esquissé mentalement tout mon programme, et je me hâte d'ajouter qu'il s'exécuta de point en point. La chance me sourit. Elle me donna pour voisin de table, au dîner, un monsieur dont je n'avais pas saisi le nom. Tout plein de mon idée, je ne tardais pas de m'en ouvrir à lui. Non seulement il ne parut pas ennuyé, mais après m'avoir écouté avec sympathie du potage au dessert, il me demanda par quels moyens financiers je pensais réaliser un projet si vaste et quelle somme j'estimerais suffisante. Je parlais de 1000 livres pour commencer. Il jugea mon évaluation trop faible. Si toutefois, me dit-il, 1000 livres doivent plus ou moins vous aider, je ne doute pas qu'on ne vous obtienne cette somme. De qui ? Demandai-je. Il me donna son nom, son adresse et ajouta « Pourvu que vous exécutiez votre projet dans les conditions que vous m'avez exposées, je me charge de vous procurer les 1000 livres. Attelez-vous à l'œuvre, puis venez me voir. » Je le lui promis et le remerciai de son encouragement. Ce parrain miraculeux était Sir Eric Barrington du Foreign Office. Le premier des bons hasards qui me servait allait être, le lendemain matin, suivi d'un deuxième. Appelé par une affaire quelconque dans la maison d'édition Smith, Elder & Company, je profitai de ma conversation avec M. Reginald Smith pour lui dire le plan que j'avais formé. Instantanément, il mit à ma disposition, sans rétribution d'aucune sorte, tout le mécanisme d'une affaire proprement mondiale. À partir de ce moment, il fut pour moi, à chaque stade que dut franchir l'entreprise, un aide doublement précieux, et par ses conseils et par ses services. Non seulement il fit réaliser de grosses économies à notre caisse, mais il se tira sans peine et fort avantageusement des transactions complexes que l'affaire comportait avec l'étranger. Ce même matin, je me rendis au War Office, où le bureau des renseignements me fournit toutes les informations dont il disposait. Puis j'écrivis au Times une lettre où j'expliquais ce que je comptais faire et sollicitais le concours de tous ceux qui approuveraient mon idée. Jamais appel ne provoqua plus d'empressement et de générosité. Le premier courrier du lendemain m'apporta 127 lettres. Elles me venaient de toutes les classes de la société. La plupart m'apportaient des sommes qui variaient en importance, depuis les 50 livres de Lord Rosebery jusqu'à la demi-couronne d'une veuve de simple soldat. Le 9 janvier, je pus aborder ma tâche. J'en sortis le 17. Étant donné le nombre des questions que je traitais, les recherches et les vérifications qu'elle exigeait, ai-je besoin de dire que je m'absorbais dans mon travail chaque jour pendant 16 heures. Autant que possible, je maintenais à l'arrière-plan mes opinions personnelles. Je jugeais plus utile de bien ordonner les déclarations de témoins oculaires, et particulièrement de bourgs, sur les divers ordres de questions, incendies de fermes, attentats contre les gens, camps de concentration et autres sujets litigieux. Je me bornais à des commentaires très simples et très brefs. Quant à l'exactitude des faits, je ne sache pas que, sauf le nombre des fermes brûlées, aucun n'a été sérieusement révoqué en doute. Notre souscription allait d'un train régulier. Dans le temps que j'achevais mon opuscule, notre avoir en banque s'était grossi d'un millier de livres. L'argent nous arrivait surtout par petites sommes, qui représentaient pour les envoyeurs un véritable sacrifice. Un détail remarquable, c'était le nombre des institutrices et autres personnes de nationalité anglaise qui, résidant en dehors, nous adressaient leur obol pour avoir souffert des propos diffamatoires tenus chaque jour devant elles. Autre particularité agréable, beaucoup d'étrangers habitant l'Angleterre s'associaient à mon projet dans l'espoir de ramener leurs compatriotes à de plus justes vues. Les seuls Norvégiens m'envoyèrent près de 50 livres. Le clergé se signala par l'importance de ces dons. Affligé depuis le début de la guerre par un débordement de littérature antinationale, il trouvait là un moyen de protester. Sitôt que je reçus mes épreuves, je les envoyai, comme je l'avais promis, à mon ami du Foreign Office. Il m'invita tout aussitôt à l'aller voir, me complimenta de mon travail et me remit un billet de 500 livres en m'avertissant au reste que cet argent ne venait pas de lui. Le don figura sur mes listes comme reçu d'un fidèle britannique. Le service secret savait à quoi s'en tenir sur la personnalité du donateur. D'ores et déjà, notre compte en banque atteignait quelque 2000 livres. Nous étions en situation de mettre en main les traductions pour l'étranger. L'édition anglaise avait paru. Messieurs Newness s'employait de tout cœur à sa distribution. Nous avions fixé à 6 pence le prix de l'exemplaire, mais désireux de forcer le débit, nous livrions l'ouvrage au commerce pour le prix d'environ 3 pence. La vente fut considérable pour l'époque. Elle atteignit très vite, en Grande-Bretagne, le chiffre de 250 000 exemplaires pour aller jusqu'à 300 000 en 2 mois. Le petit droit que nous nous étions réservé par exemplaire suffit à grossir énormément notre fonds, en sorte que nous nous trouvâmes dans une situation financière très forte pour traiter l'affaire des traductions. Préparé par le professeur Sommercrast de l'université Harvard, franco-canadien de naissance et qui, patriotiquement, refusa toute rétribution pour son admirable travail, la traduction française fut publiée par Galignani. Sur ces 20 000 exemplaires, plusieurs milliers furent envoyés gratuitement là où ils pouvaient produire le plus de bien, en France, en Belgique et en Suisse. L'édition allemande nous donna plus de mal. Aucun éditeur d'Allemagne ne voulut s'en charger. Nous ne trouvâmes de courtoisie dans ce pays que chez le baron von Taurnitz, qui accueillit le volume dans sa célèbre collection anglaise. Partout, mes avances furent reçues avec froideur, quelquefois même avec injure. Voici par exemple un des plus coquets échantillons des lettres dont on nous gratifia. Messieurs Smith Eldern Company. Messieurs, le livre de Doyle fait l'effet d'avoir été commandé ou influencé par le parti Jingo anglais. Aujourd'hui, vous le savez, ce parti anglais de la guerre, aussi bien que les officiers et les soldats anglais du Transvaal, sont méprisés par tout le monde civilisé comme de lâches coquins et d'ignobles brutes, assassins de femmes et d'enfants. Importateur de littérature anglaise en Allemagne, en Autriche et en Russie, je commettrais la plus grave imprudence en faisant rien qui peut me valoir le soupçon d'être en rapport avec un parti aussi méprisé. J'ai montré votre lettre à plusieurs personnes, aucune ne tient à se charger de l'affaire. En dépit des rebuffades, nous trouvâmes à Berlin une librairie anglo-allemande pour nous prêter son concours, et avec l'aide de Herr Kurt von Musgrave, qui nous fournit une traduction excellente, je réussis à obtenir plusieurs gros tirages. Au total, 1 000 exemplaires furent distribués en Allemagne et dans les pays autrichiens de langue allemande. Au moment où l'ouvrage était sous presse, ressentant quelques fatigues, j'étais allé prendre un peu de repos à Seaford quand j'ai reçu la visite d'un Allemand, officier de la Landwehr et pan-germaniste, qui avait fait le voyage d'Angleterre tout exprès pour causer avec moi. C'était un beau soldat, de haute stature, et qui s'exprimait fort bien en anglais. Il avait en main les épreuves allemandes de mon livre. Il était fort chagrin de la façon dont je dénonçais l'anglophobie de ses compatriotes et les effets qu'elle avait sur nos sentiments envers eux. Nous passâmes tout le jour à discuter. Son grand argument était qu'un jour ou l'autre, l'Allemagne et la Grande-Bretagne auraient toutes deux à combattre la Russie, la Grande-Bretagne pour l'Inde, l'Allemagne peut-être pour les provinces baltiques. Aussi devait-elle maintenir entre elles un contact étroit. Je lui fis observer que pour l'instant l'on ressentait chez nous beaucoup plus d'animosité contre l'Allemagne que contre la Russie. Lui-même, s'il questionnait à Londres, n'importe quel receveur d'autobus se rendrait compte de ce qu'on pensait dans le peuple. Autant il souhaitait me voir modifier certains passages, autant j'étais décidé à n'y pas toucher, car je n'avançais rien que de vrai. Enfin, prenant congé de moi, « J'ai fait, me dit-il, 800 000 pour vous voir. Eh bien, je ne vous adresserai plus qu'une requête, souffrez qu'au début de ce paragraphe soit seulement ajouté le mot « Leider », hélas. » J'y consentis, je lui accordai 2 syllabes en retour d'un trajet de 1 600 000. C'est chez les Suisses de la minorité alémanique que nous trouvâmes les amis les plus chaleureux. Ils prirent pour nous fait et cause jusqu'au point d'avoir leur traduction particulière de mon livre, dont une édition en gros caractères illustrée de cartes, parue à Zurich par les soins du docteur Angst, notre consul en cette ville. De bons amis que nous y avions, en se dévouant pour la vérité, s'exposèrent à bien des outrages, tels le professeur Naville, l'éminent égyptologue de Genève, et M. Talichetti, le Lausannois bien connu, directeur de la Bibliothèque universelle, qui compromit pour nous le crédit de sa vieille revue. Les éditions américaines et canadiennes se firent en quelque sorte d'elles-mêmes. L'espagnole, la portugaise, l'italienne, la hongroise, rapidement menées, circulèrent sans encombre. Seule la russe, publiée à Odessa, fut au dernier moment interdite par la censure, mais nous réussîmes à obtenir que celle-ci levât son veto. Partout, la vente des éditions étrangères passa nos espérances. Nous ne suivîmes d'échec qu'en Hollande. Cette vaillante petite nation hollandaise éprouvait une sympathie toute naturelle pour les gens de sa race armée contre nous, et nous croyait, le plus honnêtement du monde, coupable de très fâcheux procédés à leur égard. Notre traduction hollandaise ne trouva donc personne pour l'éditer ni pour la distribuer. Le besoin n'en était que plus manifeste. M. Reginald Smith s'arrangea pour qu'il en fût fait chez nous un gros tirage et que le livre fût envoyé directement à tous les guides de l'opinion en Hollande. Sur 5 000 exemplaires distribués, je crois qu'il ne nous en fut pas renvoyé plus de 20. L'édition norvégienne se heurta elle aussi à quelques difficultés, que l'aida pourtant à surmonter M. Thomassen du Ferdensgang. Il me revient à ce propos un fait plaisant. J'avais pour chaque version continentale écrit une préface à l'intention du peuple qu'elle visait. Dans le cas de la Norvège, le livre était déjà sous presse à Christiania que la préface n'était pas encore parvenue à l'imprimeur. Madame Brockmann, la très distinguée traductrice de l'ouvrage, vivait à 100 000 de là. Une phénoménale tempête de neige avait bloqué toutes les routes, il semblait bien qu'on dût se passer de la préface. Mais non, mes quelques mots d'adresse au peuple norvégien furent transmis par Heliostat de cime neigeuse en cime neigeuse et firent ainsi leur chemin jusqu'au livre. Une dernière traduction s'imposait, la galloise, car la presse du pays de Galles était presque tout entière favorable au bourg. Écrite par M. W. Evans, tirée à quelques 1 000 exemplaires et distribuée par l'entremise du Western Mail de Cardiff, elle couronna notre œuvre. En résumé, nous avions lancé 300 000 volumes chez nous, environ 50 000 au Canada et aux États-Unis, 20 000 en Allemagne, 20 000 en France, 5 000 en Hollande, 10 000 en Pays de Galles, 8 000 en Hongrie, 10 000 en Espagne, 5 000 en Italie et 5 000 en Russie. Il y eut des éditions en tamoul et en canaré. J'ai pu avoir au total 20 représentations différentes de mon opuscule. Sur les 5 000 livres sterling dont nous disposâmes, une moitié à peu près provenait de souscriptions. La vente du livre avait fait le reste. Il ne nous fallut pas longtemps attendre pour constater le succès de nos efforts. Un changement de ton très marqué se produisit très vite dans la presse continentale. Simple coïncidence peut-être, mais agréable. Au surplus, en ce qui concerne nombre de journaux importants, il ne saurait être question de coïncidence, car eux-mêmes, dans leurs articles de tête, invoquèrent mes arguments et les faits dont je les appuyais pour modifier leur vue anti-britannique. Notre tâche, une fois accomplie, M. Reginald Smith et moi nous trouvâmes dans l'heureuse situation d'avoir encore en main une jolie somme. Qu'en faire? La retourner au souscripteur? Impossible, et d'ailleurs, une bonne moitié nous en fut équitablement revenue, puisque nous la devions à la vente du livre. Il me sembla que les souscripteurs m'avaient donné licence d'en user par le mieux à des fins nationales. Nous commençâmes donc par propager l'excellent ouvrage autrichien du docteur Ferdinand Hirtz, Recht und Unrecht im Burenkrieg. Ensuite, nous achetâmes une douzaine de très beaux porte-cigarettes en or, au plat desquels fut gravée l'inscription « D'ami anglais, un ami de l'Angleterre », et nous en fîmes don à quelques-uns de ceux qui s'étaient rangés le plus résolument de notre côté. Il y en eut un pour l'éminent publiciste français M. Yves Guyot, un second pour M. Talichet de Lausanne, un troisième pour M. Sommercrest, un quatrième pour le professeur Naville. Le professeur était alors en Angleterre. J'eus le plaisir de glisser ce petit souvenir entre ses doigts au moment où il remettait son pardessus dans le hall de l'Athénaeum Club. J'ai rarement vu chez quelqu'un pareille expression de surprise. Restait toujours disponible une forte somme. M. Reginald Smith fut d'avis comme moi que nous devions lui trouver une affectation durable au profit des autochtones sud-africains. Nous adressâmes donc 1000 livres à l'Université d'Édimbourg afin qu'elle constituât un revenu de 40 livres en faveur de l'étudiant originaire de l'Afrique du Sud, britannique ou bourg, qui subirait le plus brillamment les épreuves annuelles. Je ne fus pas peu étonné quand, à la fin de la première année, je reçus une lettre d'un étudiant qui m'exprimait le ferme espoir de gagner la bourse, mais renonçait d'avance à se voir attribuer les 40 livres, étant, disait-il, zoulou pur sang. Après cela, notre caisse n'étant pas encore vide, nous contribuâmes à diverses œuvres par des donations qui allaient de 50 à 10 guinées. Finalement, nous restâmes devant un reliquat de 309 livres et 4 pence. Réunis en conclave solennel, M. Reginald Smith et moi cherchâmes quel usage en serait le mieux approprié aux convenances de l'Empire. Pour les 4 pence, nulle difficulté, nous les donnâmes au balayeur du passage voisin, qui avait participé à la prise de Delhi. 9 livres s'en allèrent en tabac pour les vétérans de Chelsea à l'occasion de la Noël. Enfin, nous remémorant le dicton suivant lequel le salut de l'Empire peut dépendre d'un obus tiré par un canon de 12 pouces, nous consacrâmes les dernières 300 livres à l'acquisition d'une magnifique coupe que se disputeraient les vaisseaux de l'escadre de la Manche et que le vainqueur garderait une année. Le support de la coupe était d'un bois de chêne provenant du Victory. Le trophée lui-même était d'argent massif. Grâce à l'appui bienveillant et judicieux de l'amiral Sir Percy Scott, inspecteur des tirs, qui le transmit à Sir Arthur Wilson, Victoria Cross, doyen des amiraux embarqués et commandant de l'escadre, toutes les difficultés s'aplanirent. La coupe fut disputée l'année même, et l'on m'assure qu'elle a provoqué depuis une vive émulation entre les équipages. La seule condition imposée par nous fut qu'on la garderait non pas dans la salle du mess, mais sur le pont, continuellement exposée à la vue de l'équipage vainqueur. J'apprends que l'Exmouth l'avait arborée au sommet de sa tourelle avant quand il entra dans le port de Plymouth. Le sentiment fixe qu'a laissé chez moi l'affaire de mon livre, c'est que notre gouvernement n'use pas suffisamment de la publicité pour faire connaître et soutenir la cause nationale. Si, moyennant 3000 livres et 1 mois de travail, un particulier peut agir, dans le monde entier, sur l'opinion publique, que ne ferait pas une organisation vraiment riche et intelligente? Mais il sied d'abord que la cause soit juste. Qui donc sait, en dehors de l'Angleterre, les efforts répétés, loyaux, que nous avons faits pour régler la question irlandaise et tenir, entre Irlandais rivaux, la balance égale ?